Et nous allons au chapitre 15e du livre de la Genèse. Et nous allons parler d'un homme dont nous avons parlé il y a quelque temps en arrière, qui s'appelle Abraham. Mais nous n'allons pas rester que sur la personne d'Abraham. Nous allons voir d'autres situations, et bien notamment l'apôtre Pierre. Et voici ce qu'il nous est dit. Genèse, chapitre 15e, et le verset 1er. Il nous est dit, « Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur Éternel, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas, c'est-à-dire son serviteur principal. » Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité. » Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. On peut aussi le traduire en disant que Dieu déclara Abraham juste en raison de la foi qu'il plaça en l'Éternel. Voyez. Et Abraham eut confiance en l'Éternel. Alors, je voudrais insister dans ce texte sur un détail qui va nous suivre dans cette matinée, dans cette méditation, cette réflexion, qui est celui-ci. C'est un détail où il nous est dit au verset 5, après l'avoir conduit dehors, c'est-à-dire après avoir conduit Abraham hors de sa tente, Dieu lui dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter, lui dit, telle sera ta postérité. L'impression, et nous allons le voir ensemble, eh bien pour diverses raisons, eh bien que Abraham avait cette tentation de se replier sur lui-même. Et c'est une tentation que plusieurs ont, en disant dans notre société, c'était mieux avant. Alors pour diverses raisons, c'est vrai, parfois c'est complètement faux, voyez. Mais il y a une espèce de, lorsque les temps sont durs, lorsque les temps sont difficiles, eh bien ce mouvement réflexe de dire, je ne vais pas sortir, je vais rester. Voilà, dans une zone de confort, voyez-vous. Et ici, il nous est dit que Dieu, eh bien, conduisit dehors Abraham pour qu'il puisse voir ce que Dieu allait faire pour lui. Cette tentation du repli sur soi, on la retrouve dans le cas de plusieurs hommes de Dieu tout à fait sincères, authentiques, et peut-être que quelqu'un est dans cet état d'esprit. Je relisais un texte dans le livre du prophète Jérémie. Le prophète Jérémie, c'est un des plus grands prophètes d'Israël. Et il dira ceci, alors que sa mission, c'est d'annoncer le message de Dieu à son peuple et de lui dire, par exemple, vous connaissez tous par cœur Jérémie 29, 11. Qui c'est qui connaît Jérémie 29, 11 par cœur? Alors, levez la main, vous qui le connaissez. Il y en a plusieurs. Hein. Alors, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. C'est glorieux, ça. Ça, gardez-le, hein, gravez-le dans votre cœur d'abord. Hein, voilà, repassez-le. Et alors que cet homme, eh bien, apporte de tels oracles de la part, eh bien, du Seigneur. Dans l'épître, dans le livre de Jérémie, toujours au chapitre 9 et au verset 2, il dira ceci, « Oh, mais si j'avais au désert une cabane de voyageurs, au désert, là où il n'y a rien, et si dans ce désert, j'avais une cabane de voyageurs, c'est un peu comme les cabanes de bergers qu'on voit dans la campagne, là, toute seule, mais j'abandonnerais mon peuple, je m'en éloignerais, car ce sont tous des adultères, c'est une troupe de perfides. » Et c'est dur, Seigneur, de te servir. C'est dur, Seigneur, d'annoncer toutes ces choses. Et moi aussi, et on voit la tentation du repli sur soi. Je veux tout quitter, je veux tout abandonner. Et surtout, je veux plus avoir d'ennuis, je veux plus avoir de problèmes. Mais pour entrer pour entrer dans le plan de Dieu, pour goûter aux bénédictions que le Seigneur t'a acquises à la croix du calvaire. Et nous nous souvenons de Jésus qui dira ceci, Jean 10, 10, « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Alléluia. Le berger va les faire sortir de la bergerie. Il va les faire leur faire goûter des pâturages, leur faire boire eh bien, de l'eau limpide. Et pour Abraham, ce sera la même chose. Il va conduire Abraham hors de sa tente pour qu'il puisse voir ce que Dieu est capable de faire. Alléluia. Et je voudrais te dire, pour des raisons diverses et variées, eh bien, nous avons besoin de quitter eh bien, certaines situations qui nous empêchent eh bien, de voir ce que Dieu est capable de faire, qui nous empêchent de placer une foi entière et totale eh bien, dans ce Dieu vivant et vrai. Alléluia. Alors, on va voir ensemble plusieurs points que nous avons besoin de quitter la peur. Nous avons besoin de quitter l'échec ou la peur de l'échec. Besoin de quitter l'incrédulité et besoin de quitter aussi parfois de faux raisonnements. Alors, on va voir ensemble tout d'abord sur le fait de quitter la peur. Vous avez remarqué que dans ce texte, vous m'avez suivi, hein, voilà, quitter, se séparer d'eux. Voilà. Je vous avais dit dans un message précédent qu'un des mots-clés de la vie d'Abraham, c'était la séparation, la circoncision. Voilà, dans sa chair, il y a une entaille, il se sépare. Mais sa vie sera faite de séparations successives. Il quitte la maison de son père, il quitte l'Égypte, il quitte Lot, il quittera même d'une certaine manière pour mieux le retrouver Isaac, etc. Il quittera bien sûr Ismaël, Agar, etc. Voilà, mais quitter certaines situations qui sont comme des points de blocage et qui nous empêchent de vivre ce que Dieu veut nous faire vivre. Et la première des choses, c'est quitter la peur. Alors, pourquoi ? Parce que dans le texte, il nous est dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham se trouve dans une situation... Là, dans ce contexte, il nous est dit, après ces événements, quels seront ces événements ? Il a dû affronter le roi Kedorlaomer et ses alliés pour libérer son neveu Lot qui s'est trouvé pris dans cette affaire. Donc, il a réussi, il s'est battu, il a gagné et il ramène Lot chez lui. Et Lot, la maison de Lot, le lieu où Lot habite, c'est Sodome, Sodome et Gomorre. Il y a eu une affaire entre les rois de Sodome et Gomorre et Kedorlaomer. Bon, voilà. Et tandis qu'il ramène cette troupe eh bien, chez eux, eh bien, le roi de Sodome lui-même se présente et évalue. Le roi de Sodome, ça représente le diable, le compromis, la méchanceté, le vice. Et il veut faire entrer eh bien, Abraham dans une espèce de magouille, de manigance. Mais heureusement, avant cela... Eh bien, Dieu bénit Abraham au travers d'un homme qui s'appelle Melchisédek, un souverain sacrificateur, qui, comme Christ, lui présente la victoire sur les œuvres du mal. Alléluia. Comme pour lui dire, n'aie pas peur. N'aie pas peur des œuvres du diable. N'aie pas peur de ceux qui veulent détruire, de ceux qui veulent eh bien, prendre une emprise sur ta vie. Je les ai déjà vaincus. Toi, tu n'as qu'une seule chose à faire. Tu résistes. Amen. Et vous vous souvenez dans Jacques, au chapitre 4, verset 7, il nous est dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous ». Dans la première épître de Pierre, au chapitre 5, au verset 8 et verset 8 à 10, il nous est répété eh bien, les mêmes choses en ajoutant que les souffrances que nous pouvons rencontrer les uns aux autres eh bien, sont imposées à tous nos frères eh bien, sur cette terre. Mais nous pouvons quand même nous poser cette question et certainement, puisque Dieu est obligé de lui dire « Abraham, n'aie pas peur », ça signifie que même si Dieu l'a libéré, Dieu a su protéger sa famille et lui apporter la victoire dans cette circonstance compliquée, excusez-moi, je vais parler comme ça, il a les jetons quand même. Voilà, vous connaissez cette expression ? Voilà, j'ai les jetons, ça veut dire... Ouf, voilà. Et il a eu peur. Et... Je me mets à sa place et dis, mais enfin, et Abraham, oh, je me fais Abraham, hein, et t'as fait quoi là toi, t'as rien, t'es un étranger, t'es un voyageur, tu habites sous des tentes là, et la puissance principale du coin, le roi de Sodome, tu lui as résisté, tu n'as pas voulu faire commerce avec lui, tu l'as méprisé, tu as élevé le nom de ton Dieu devant lui, mais est-ce qu'il ne va pas y avoir des représailles et émotionnellement, il peut être troublé. Et Dieu va lui dire, mais n'aie pas peur. N'aie pas peur, Abraham. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Et on sait que Dieu va le protéger. On sait que le Seigneur va accomplir envers lui la promesse qu'il lui a donnée d'avoir une postérité. D'ailleurs, ça va revenir, vous l'avez vu, nous l'avons lu ensemble, cette postérité, le Seigneur le rassure, les promesses, c'est vraiment pour toi, c'est pas quelqu'un d'autre qui va les avoir, je me suis pas trompé, je m'adresse vraiment à toi, c'est ta postérité, ça sera ton enfant qui héritera, c'est pas ton meilleur serviteur, celui qui est même né dans ta maison, qui est comme ton fils adoptif, non, ça sera vraiment tout cela. Et Abraham est restauré dans sa foi, mais il est restauré dans sa foi, j'ai l'impression, en ce qui me concerne, parce qu'il dialogue, il interroge, il y a quand même beaucoup de doutes. Et il y a dans son cœur, eh bien, encore un sentiment de repli. Mais Seigneur, si tu me dis que tu es mon bouclier, ça veut dire... Vous savez, un bouclier, enfin, on n'a pas l'habitude d'employer des... Moi, les boucliers que je vois, quand je regarde les infos à la télé, les boucliers que je vois, c'est les boucliers des CRS, vous savez. Alors, quand je les vois se servir des boucliers, ce n'est pas la joie. Hein. Alors, merci Seigneur pour les boucliers. Hein ? Mais ça veut dire que le bouclier, on l'emploie en temps de guerre. Et peut-être que ça, en ce qui concerne Abraham, mais Seigneur, ça ne me rassure pas tellement quand même. Parce que ça veut dire que le roi de Sodome, il va être toujours là pour me faire du mal. Le monde n'a pas changé. Le monde, eh bien, se trouve toujours dans une situation morale. Et on peut avoir cette tentation. Seigneur, merci, tu me protèges. Tu es avec moi. Repli sur soi. Je reste sous ma tente. Ça ne bouge pas. Je suis bien. Je reste protégé, etc. Je voudrais vous dire, le Seigneur, c'est le Dieu de l'action. Alléluia. C'est le Seigneur qui nous met en mouvement. Alléluia. C'est celui qui veut nous faire vivre encore mieux et davantage. Alléluia. Je vous donne quelques textes de l'Écriture. Jean 11, 40. Eh bien, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Un psaume que je voudrais, et peut-être que gardez-le dans le courant de cette prédication, c'est le psaume 37 et le verset 4. Ça c'est un psaume quand on était jeune, on se le disait souvent. Vous vous souvenez de cela? Psaume 37 verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Alors je disais quand on était jeune parce qu'on disait il te donnera ce que ton cœur désire. Alors des fois il y avait des désirs dans le cœur. Le Seigneur n'est pas forcément contre, mais là, ce n'est pas de ça dont il parle. Hein. Voilà. Il te donnera ton cœur désir voir la gloire de Dieu. Alléluia. Mais fais de l'Éternel tes délices. Alléluia. Mais là, comment faire de l'Éternel ses délices alors que le cœur est rempli d'inquiétude, alors que sous une tente, et peut-être toi-même, tu es dit, tu penses, mais je voudrais avoir une cabane au désert. Là. Ce monde, c'est que du mensonge, la tromperie, et au moins là-bas, je serai tout seul. Le Seigneur lui dit, allez Abraham, tu vas sortir de cette position-là, ça suffit. Hein. Satan est là, ok, d'accord, les épreuves sont là, mais moi je suis là aussi. Et il le conduit dehors, et dehors, eh bien, Dieu lui dit, mais regarde vers le ciel et compte les étoiles. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 3 et au verset 1er, il nous est demandé de considérer le souverain sacrificateur de notre foi, l'apôtre de notre foi, Jésus. Et il nous est dit, donc si on veut synthétiser les deux versets 1 et 2 de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 3, considérez Jésus. Vous voyez ? Pourquoi, mes frères, vous qui avez par la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, verset 2, Jésus. Considère Jésus. Dans le mot considérer, il y a le mot sidérus. En latin, ça veut dire l'étoile, sidéral. Cherche, considère, reviens à la lumière, à la clarté de celui que tu aimes, celui qui est ton représentant auprès du Père, le souverain sacrificateur, celui qui intercède pour toi, l'apôtre, celui qui a été envoyé sur cette terre pour te révéler l'amour du Père. Considère toutes ses bontés. Considère sa victoire. Alléluia. Considère eh bien, ses promesses. Et la Bible nous dit que quand Abraham entendit ce que Dieu était en train de lui dire, compte et ça sera ta postérité si tu peux compter, la Bible nous dit, quand il vit tout cela, eh bien, que Abraham eu confiance en Dieu et cela lui fut imputé à justice, c'est-à-dire que Dieu le déclara juste en raison de sa foi et Dieu n'attendait qu'une seule chose, c'est que Abraham puisse placer sa confiance en lui pour que les promesses puissent s'accomplir. Mais pour cela, il fallait qu'il sorte d'une certaine condition, d'un marasme, d'une peur, d'un repli sur soi. Et peut-être ce matin, tu as toutes les raisons de te replier, de dire « je ne veux pas sortir, c'est trop compliqué, c'est trop dur, et ceci et cela. » Mais ce n'est pas moi qui te le dis. Mais l'Écriture nous dit « il le conduisit dehors ». Il faut que tu sortes de là, que tu sortes de cette position pour dire « Seigneur, l'extérieur c'est peut-être compliqué, mais c'est là où tu vas, et bien manifester ta gloire. » Alléluia. Et la Bible nous dit que Abraham, toujours avec une crainte dans son cœur, il plaça sa confiance en Dieu. « Seigneur, je place ma confiance en toi. » Et Dieu le déclara juste en raison de cette foi-là. Ce texte, il est tellement important qu'il va soutenir doctrinalement la doctrine donc de la justification par la foi que vous retrouvez dans l'Épître aux Romains. Le juste vivra par la foi. C'est-à-dire que nous ne sommes pas sauvés par nos mérites, on a entendu un don spirituel sur la grâce de Dieu tout à l'heure, mais nous sommes sauvés parce que nous faisons confiance dans l'œuvre que Jésus a fait pour nous à la croix du calvaire. Amen. Lui, il est juste, lui, il est parfait, il est venu sur cette terre dans un corps d'homme, dans ce corps qui n'a jamais péché, il a été crucifié pour payer ma dette et je suis réconcilié avec mon Dieu en plaçant ma foi en lui. Alléluia. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Et c'est cette qualité de confiance que Dieu, à laquelle Dieu nous appelle. Alléluia. Et le Seigneur veut te dire, est-ce que tu es capable encore de me faire confiance? Est-ce que malgré tes peurs, malgré ton trouble, est-ce que malgré tes épreuves, tu veux encore me faire confiance? Et l'Écriture nous dit qu'en ce qui concerne Abraham, il eut confiance en l'Éternel. Alléluia. Et que ce matin, on puisse dire, Seigneur, ce n'est pas le monde avec ses mensonges, avec ses épouvantails qui vont influencer ma vie spirituelle et mon avenir. Mon avenir, il dépend de toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Et il a eu raison, Abraham. Il a eu raison. Alléluia. Amen. Alors, quitter ses peurs, quitter ses échecs, parce que le Seigneur t'aime, parce qu'il est là. Et justement, je parlais des échecs. Eh bien, je voudrais lire avec vous, juste dans l'Évangile, selon Luc, au chapitre 5e, un homme qui est entré dans le plan de Dieu, mais qui a dû affronter ses échecs, triompher de ses échecs. Et c'est dans l'Évangile, selon Luc, au chapitre 5e et au verset 1er. Luc, chapitre 5 et le verset 1er. Alléluia. Je reviens pendant que vous cherchez un instant sur Abraham, ce qui a donné de l'autorité et de la force à la foi d'Abraham, c'est que Dieu lui a parlé, alléluia, c'est que Dieu s'est révélé et Dieu veut se révéler en Christ, alléluia, encore ce matin. Amen. Donc Luc 5, verset 1er, il nous est dit, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Et puis il s'assit de la barque, il enseignait la foule. Et lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Et l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Amen. Gloire à Dieu. Lorsque le Seigneur intervient au bord du lac de Galilée, il est là pour enseigner la foule concernant les choses du royaume de Dieu. Et il monte dans la barque de Pierre. Je pense qu'il devait y avoir plusieurs barques, mais il monte dans cette barque-là. Certainement, il y avait déjà entre Jésus et Pierre un contact, puisqu'il nous est parlé que c'était au bord du Jourdain que Jésus dira « Tu es appelé Simon, fils de Jonas, et désormais tu seras appelé Céphas, qui signifie Pierre. » On trouve cela dans l'Évangile selon Jean. Mais lorsque Jésus entre dans la barque de Pierre, il n'entre pas dans la vie d'un homme prospère. C'est un homme qui bataille, c'est un homme qui lutte pour sa survie économique, pour avoir du poisson et le vendre. Mais là, on l'a vu, il est fatigué, il est découragé, il n'a rien pris, il lave ses filets et ses filets sont vides. Et c'est là que Jésus intervient et il se met à parler du royaume de Dieu. Moi, vous n'êtes pas curieux de savoir ce que le Seigneur a pu dire ? Seigneur, qu'est-ce que tu as dit ? Non, mais c'est important. Vous aimez la parole de Dieu. Vous ne vous posez pas des questions comme ça. Seigneur, qu'est-ce que tu as dit ? Alors, moi, je me suis dit quand même, le royaume de Dieu, le sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne. Eh bien, peut-être que... Alors, ce n'était pas le sermon sur la montagne, là. C'était le sermon dans la barque. Mais peut-être que le Seigneur a dit le sermon sur la montagne ou a dit certaines choses. Hein. Certains commentateurs disent que le Seigneur a pu se répéter plus de 400 ou 500 fois. C'est-à-dire des enseignements qu'il disait, qu'il répétait. Voyez, et entre autres, dans l'Évangile selon Luc, un chapitre plus tard, on voit justement le sermon sur la montagne où il dit « Heureux vous qui êtes pauvres », verset 20, hein, 6-20, « Car le royaume de Dieu est à vous, heureux qui avez faim maintenant car vous serez rassasiés ». Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Je me dis que si c'est ça que le Seigneur a dit dans la barque de Pierre, il a dit, ben alors, c'est pour moi. Hein, parce que là, je n'ai pas un copec, excusez-moi. Hein, connaissez l'expression ? Voilà, je n'ai pas un radis. Voilà, il y a plein d'expressions françaises hein, pour dire qu'on est fauché. Hein, voilà, hein, ça correspond peut-être à une réalité. C'est autre chose. Alors, et le Seigneur dit, mais heureux vous qui êtes pauvres. Seigneur, quand même, tu exagères. Et il nous a dit, heureux vous qui avez faim. Là, peut-être qu'ils allaient se serrer la ceinture. Et puis, heureux, je vous ai dit, hein, vous qui pleurez. Enfin, là, Seigneur, quand même, eh bien, tu exagères. Et on veut se souvenir quand même que le Seigneur a cette faculté de changer le mal en bien. Ne l'a-t-il pas fait pour nous ? Oui ou non ? Là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Et le Seigneur est en train de dire, eh ben, si vous êtes dans cette situation-là, c'est bien, tant mieux, parce que je vais pouvoir agir dans vos vies. Je vais pouvoir manifester ma gloire. Si vous veniez à moi en disant, mais Seigneur, j'ai tout, je vais pas pouvoir faire grand-chose pour vous. Mais si dans ton cœur, dans ta vie, tu comprends que t'as besoin de lui, et que tu es dans une situation d'échec, eh bien, tant mieux, parce que je vais pouvoir intervenir pour toi. Il me dit même « heureux ». Et « heureux », en hébreu, eh bien, ça veut dire « celui qui marche, qui est en marche ». Ben, si tu marches avec moi, si tu me laisses marcher avec toi, eh bien, je vais t'enrichir, je vais te remplir, je vais te nourrir, alléluia, je vais te faire du bien, alléluia. Par contre, il y a une chose qui est une condition dans le royaume de Dieu, et vous connaissez tous Matthieu chapitre 6 et le verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Cherchez premièrement le royaume. Ben, vous connaissez votre Bible quand même. Hein, voilà, gloire à Dieu. Vous avez remarqué que je contrôle en même temps. Hein, voilà, hein, donc c'est bien. Merci Seigneur. Alléluia. Et Pierre, une fois que Jésus a parlé, a enseigné, ça touche son cœur quand même. Ça touche son cœur et tout ce qu'il a entendu. Et Jésus lui dit, avance en plein eau maintenant. Avance là, en plein eau, et jetez vos filets pour pêcher. Et lui, il lui dit, mais Seigneur, on a travaillé toute la nuit. Hein. On a travaillé toute la nuit. On y a, et travaillé, il n'a pas ménagé sa peine. Et Seigneur, toute la nuit, sans rien prendre. Mais, sur ta parole, je jetterai le filet. Je ne sais pas si vous êtes en train de vous rendre compte que le Seigneur le renvoie sur le lieu de ses échecs. Là où il était perdant. Il faut une certaine dose d'humilité pour accepter. J'ai pas réussi. On n'aime pas. Hein. On n'aime pas. Hein. Un de mes enfants qui était en train de jouer à un jeu, à chaque fois qu'il perd, il recommence la partie. Je lui dis, mais moi, j'ai envie de gagner. Alors, d'accord, ok, je comprends. Hein. Et on n'aime pas perdre. Mais là, il se passe quelque chose. Et il a raison. Et peut-être que ce matin, le Seigneur veut te faire quitter tes échecs en triomphant de tes échecs, en retournant sur le lieu de tes échecs, non plus tout seul avec tes propres réflexions, tes propres solutions, mais avec Jésus dans ta barque. Alléluia. Ça concerne peut-être le mariage. Peut-être que tu as eu des projets. Ça s'est planté complètement parce que le Seigneur n'était pas dans la barque. Ça concerne peut-être ton travail, la famille ou je ne sais quoi. Je ne sais pas. Mais cet homme de Dieu, Pierre, pourra dire, mais nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Peut-être un échec par rapport à ta spiritualité, ta vie avec le Seigneur. Il y a des situations, des tentations, et sans cesse tu retombes dedans, ça te piège, ça t'englue, t'es comme dans une toile d'araignée, et tu fais tous tes efforts pour t'en sortir, et tu retombes encore. Et le Seigneur te dit, avance un peu, nous jetez vos filets pour pêcher. Je vais être avec toi dans la barque. Seigneur, sur ta parole, je vais jeter le filet. Alléluia. Amen. Et au lieu de l'échec, il va y avoir le succès. À tes résolutions répondra le succès. Si tu cherches premièrement le royaume, la justice de Dieu. Seigneur, la première chose, avant le succès, l'échec ou quoi que ce soit, c'est que tu sois dans ma barque. Amen. Je me suis posé la question, vous posez des questions ? Je me suis posé, vous dites, il se pose des questions lui quand même, Alors je les ai même notées. Mais qu'est-ce qui a convaincu Pierre d'aller sur le lieu de ses échecs ? Alors bien sûr, il y a eu la promesse, oui, certainement, voilà. Mais qu'est-ce qui l'a convaincu de retourner là-bas ? Et peut-être, qu'est-ce qui va te convaincre de retourner sur le lieu de tes échecs, de les affronter et d'en finir une fois pour toutes avec ces échecs. Alors je me suis posé des questions, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qui a convaincu ? Et une réponse, je vous la livre. Vous vous souvenez que Jésus est entré dans la barque de Pierre alors qu'il était gagnant ou qu'il était perdant ? Il était perdant. Et peut-être que ça a joué dans la vie de Pierre. Seigneur, tu t'es intéressé à moi alors que j'avais faim, alors que j'étais pauvre, alors que j'étais, encore une autre expression, dans les choux. Vous connaissez ça ? Je vous en livre une des expressions. Et Seigneur, ça veut dire que l'amour que tu as pour moi, la considération que tu as pour moi ne fluctue pas en fonction de ma réussite ou de mes échecs, mais tu es toujours le même. Alléluia ! Et je voudrais te dire, si tu stagnes, le Seigneur t'aimera encore. Il t'aimera toujours, ça ne changera pas, mais tu stagneras. Tu seras malheureux, tu seras vide, tu seras découragé. Mais le Seigneur veut te faire sortir de ta tente, alléluia ! Il veut te faire avancer en pleine eau, pour que tu vois encore tout à nouveau toute sa gloire, alléluia, et que tu puisses dire, mais c'est extraordinaire, le Seigneur a agi en ma faveur. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et certainement, l'amour du Seigneur pour lui, ce stimulant, mes frères et mes sœurs, alors que nous étions loin de Dieu, qu'on était dans nos péchés, qu'on ne savait ni discerner ni notre droite de notre gauche, Dieu nous a aimés, il nous a parlé avec amour, on a entendu le message de la croix, alléluia. Et maintenant que tu te trouverais dans une situation, toi qui es un enfant de Dieu, de combat, qui peut-être te déprime, Dieu t'abandonnerait et il t'aimerait moins. Mais loin de là, l'Écriture nous dit que qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu ? Est-ce que ça va être la mort, la vie, les puissances, la hauteur, la profondeur, etc. ? Mais rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alléluia ! Seigneur, alors je vais aller de l'avant. Quitte la peur de l'échec. Et le Seigneur veut te faire aller de l'avant. Alléluia ! Amen ! Je regarde l'horloge. Sachez que je la regarde. Voilà. Un autre point. Allez, on va dans l'Évangile selon Matthieu. Et sortir de l'incrédulité. Matthieu chapitre 14. Et le verset le verset 25. Vous connaissez ce texte ? Merveilleux. Je vous le résume quand même. 14 et le verset 25. Donc, les disciples sont au milieu de la mer de Galilée. Encore une fois, il y a beaucoup de choses qui se passent là, autour de cette mer. Et puis, la tempête, ils sont seuls. Jésus vient à eux. Ils marchent sur l'eau. Vous vous souvenez de cela ? Et 26, il nous est dit, quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés. Et ils dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Et Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Et le Seigneur veut te le dire, n'aie pas peur. Comme Abraham, n'aie pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Et Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Amen. Je vais m'arrêter là, vous connaissez la suite. Il va regarder le vent, la mer, il va sombrer, mais le Seigneur va le récupérer. Le Seigneur ne te laissera pas couler. Hein. Amen. Gloire à Dieu. Mais il nous est dit ici, eh bien qu'il y a eu du mal par rapport à cette tempête, eh bien de reprendre de l'initiative. L'Écriture nous dit que les disciples le virent marcher sur la mer et ils furent troublés. Ils dirent même, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Ils étaient dans un état de confusion totale. C'était complètement désorganisé à l'intérieur d'eux-mêmes. Et auparavant, ils venaient de voir une multiplication des pains, 5000 hommes eh bien, qui ont été nourris d'une manière miraculeuse. Ils ont vu le Seigneur faire tant et tant de miracles. Et alors qu'ils voient Jésus, ils pensent que c'est un fantôme. On ne va pas leur jeter la pierre. Parce que nous aussi, on a été dans des temps de confusion. Oui ou non ? Vous avez toujours réagi d'une manière spirituelle dans la tempête ? Vous n'avez jamais été tellement submergé par les difficultés que vous dites, Seigneur, je coule. Seigneur, je ne sais plus réagir. Je ne sais plus comment même réfléchir. Ben, c'est ce qui leur arrive. Sauf qu'il ne faut pas qu'ils restent et qu'ils demeurent dans cet état-là. Et le Seigneur va les faire sortir de ce qu'on va appeler l'incrédulité. C'est-à-dire la faculté de ne pas croire ou la perte de faculté de croire. Voilà. Et ça peut aussi être dû à une décision plus ou moins volontaire, mais parfois influencée par les événements de l'extérieur, de dire, Seigneur, dans cette situation, je n'y arrive plus, je ne crois plus, je ne sais plus. Et il faut sortir de là. Pour voir la gloire de Dieu, il faut sortir de cette situation. D'autant que Jésus, et je l'ai noté dans l'Évangile selon Luc au chapitre 10 et au verset 19, le Seigneur dit, mais je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. C'est ce que le Seigneur nous renvoie comme message lorsqu'il marche sur l'eau. Dans un monde déchaîné, dans la Bible, souvent la mer, ça nous parle de la situation du monde instable. Et l'Écriture nous parle du prince de la puissance de l'air, du diable. Vous ne trouvez pas que le diable, il souffle là ? Hein ? Il y a de la haine, de la méchanceté. Vous ne trouvez pas que dans notre société française, il y a des vents mauvais qui soufflent quand même ? Hein ? Et l'Écriture nous dit, bah, ce n'est pas parce que c'est comme ça bah, que tu ne peux pas avancer avec lui. Oh, Seigneur ! Dis donc, alors là... J'aimerais bien le croire. J'aimerais bien le voir. Enfin quoi ? La foi, elle ne vient pas de ce qu'on voit, elle vient de ce qu'on entend. Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi sur les eaux. Cette prière, elle est quand même pas mal parce que si c'est vraiment toi, Seigneur, tu as l'autorité sur toute chose et tu peux me donner, Seigneur, cette puissance, ce pouvoir, parce que je suis à toi, de marcher sur la puissance de l'adversaire pour venir à toi. Je peux habiter à la paillade. Je peux habiter n'importe où. Mais Seigneur, si je marche dans ta direction, rien ne pourra m'empêcher de m'approcher de toi. Alléluia ! C'est-à-dire qu'au cœur de la tempête, le Seigneur nous fait reprendre l'initiative sur la tempête. Ce n'est pas le monde qui va décider dans ma vie de ce qui va m'arriver, mais Seigneur, c'est toi. Alléluia. Et je vais quitter cet état d'esprit, cette mentalité eh bien, qui peut-être s'est installée dans ton cœur pour dire, mais c'est trop dur, c'est trop compliqué, il faut des ajustements. Mais écoute, ce n'est pas ta barque qui va te sauver. Ce n'est pas tes raisonnements. Quelqu'un a dit, c'est un vieux pasteur, qui disait en réalité, Pierre, n'a pas marché sur l'eau, mais Pierre a marché sur la parole de Jésus. Et si toi aussi, si tous ensemble, on marchait avec foi sur les paroles que le Seigneur nous a données. Alléluia. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Gloire à Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Les malades sont guéris. Amen. Le Seigneur a grandi son Église. Amen. Gloire au Seigneur. Et Jésus a fait quitter. Pierre, c'était une folie. A fait quitter. Eh bien, à Pierre, sa barque, pour qu'il vienne vers lui. Quelqu'un vous dira, oui, mais il a coulé quand même. Oui, mais vous avez remarqué que dès qu'il a dit, Seigneur, sauve-moi, il a remis sur pied. Hein. Oui ou non ? Amen. N'aie pas peur, bah, tu feras des erreurs. David, on a toujours été au summum. Hein, et des fois, on s'est planté. Mais Jésus ne nous a jamais abandonnés. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Vous êtes toujours là ? Bon, gloire à Dieu. Alors, et là, je termine. Je l'ai dit. Hein. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé de faux raisonnements. Alors, on a parlé de quitter la peur. On a parlé de quitter quoi encore ? Vous vous souvenez ? Amen. On a dit qu'il fallait quitter l'échec, l'incrédulité. Et maintenant, les faux raisonnements. Juste avant, dans Matthieu 14, juste avant, je vous ai dit, il y a eu une multiplication des pains avant que Jésus marche sur l'eau. Et dans ce texte, il nous est dit que Jésus leur dit, demande à ses disciples de leur donner à manger. La Bible nous dit que les disciples disent « Ce lieu est désert, l'heure est avancée, il renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Et dans un autre texte, dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 6 et au verset 34, vous verrez qu'ils diront « Mais même si on avait 300 deniers, ça ne suffirait pas pour nourrir toute cette foule. Toi, tu nous demandes. » Et puis, vous vous souvenez de l'histoire, un petit garçon, ça nous est relaté encore dans Jean 6, cette scène, qui amène 5 pains et 2 poissons. Est-ce que vous vous en souvenez de tout cela ? Vous, oui ou non ? Vous vous souvenez, hein, voilà. Et dans tout leur raisonnement, et on a l'impression que dans l'équipe des disciples, c'est tous des comptables, ils comptent extrêmement vite. Ils disent, mais pour nourrir cette foule de gens, eh bien, il faut vraiment une somme immense, et même pour qu'ils en aient un petit peu, 300 deniers, hein, c'est 300 jours de travail. Imaginez, le salaire d'une personne, d'un ouvrier normal, eh bien, pendant près d'une année, il dit, mais même ça, ça ne suffira pas. Vous voyez ? Et le Seigneur va les amener à quitter leur faux raisonnement. Alors, je voudrais vous poser une question. Est-ce que parce qu'on marche avec le Seigneur, on doit faire taire toute notre intelligence ? Oui ou non ? Non. Dans ce texte-là, et surtout dans Marc 6, où c'est plus détaillé, vous le trouverez, Jésus demande à ses disciples d'organiser la foule, des rangées de 50 par 100, 5000, 50 fois 100, c'est ça, hein, voilà. Voilà. Et donc, mais attention, ton intelligence, cette intelligence que Dieu t'a donnée, tu la mets au service de la foi. Tu prépares les choses, un peu comme Noé. Noé, Dieu lui parle, lui donne les plans de l'arche. Maintenant, vas-y. Ah d'accord, très bien, Seigneur, je sais ce que je vais faire. Je vais faire ta volonté. Et il va faire fonctionner son cerveau. Alors, il ne nous est pas dit comment ils ont construit l'arche, hein, mais certainement, il y avait des techniques de menuiserie que je ne connais pas, etc., de bâtisseurs. Mais on a le droit de faire fonctionner son cerveau pour dire, Seigneur, bah, je me prépare. Regardez, par exemple, on bénit le Seigneur de ce qui est des générations précédentes qui ont... Jean-François, tu en as fait peut-être partie, hein. Pour construire ce local. Voilà. Ben, merci Seigneur pour les générations précédentes qui ont dit il faudra qu'ils aient un local, il faut se réunir, etc., avoir un chauffage parce que l'hiver il fait froid à Montpellier, ils sont frileux, etc. Vous voyez, puis des clims parce que l'hiver, l'été fait chaud et ils ont chaud. Bon, voilà. OK. Et prévoir les choses, Seigneur. Peut-être qu'ils auraient dit mais ça ne sert à rien. Seigneur, tu reviens bientôt. Dans 40 ans, dans 50 ans, il n'y aura plus un seul chrétien. À la paillade, avec tout ce qui se passe, la religion, etc. Mais ça, ce n'est pas le langage de la foi. Ça, c'est des raisonnements humains. Et le Seigneur va nourrir une foule entière. Je crois bien sûr que le Seigneur revient, mais je crois aussi que le Seigneur va sauver une multitude. Alléluia. Et qu'il veut nourrir ici à la paillade. Eh bien, des hommes et des femmes qui ont faim et qui ont soif de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et ils ont dû quitter eh bien, leur faux raisonnement, leur faux calcul, leur propre logique pour entrer eh bien, dans ce que Dieu avait préparé pour eux. Alléluia. Alors, voilà, on va prier le Seigneur. Et me dire, Seigneur, je veux entrer dans ce que tu as prévu pour moi. Alléluia. Je veux saisir ton salut, je veux marcher dans tes voies. Je veux plus être dans l'échec. Échec par rapport, peut-être quelqu'un et ton combat avec la cigarette, avec je ne sais pas quoi. Peut-être quelqu'un et ton combat avec son caractère, des difficultés, tu te bats avec tes propres forces. Il faut que tu quittes cette façon de faire, que tu quittes le lieu de tes échecs, mais il faut que tu les affrontes et avec le Seigneur. Que tu aies été troublé, Abraham a reçu cette parole, mais chute, n'aie pas peur Abraham, je suis ton bouclier, ta récompense sera grande. Oui, mais Seigneur, ça veut dire qu'il y aura encore des combats. Il y en aura, mais je serai avec toi pour te délivrer. Et regarde la voûte céleste, regarde. Et on l'a chanté tout à l'heure, infiniment grand. Il fait infiniment au-delà de tout ce qu'on demandait et de tout ce qu'on pense. Puis de quitter l'incrédulité pour reprendre l'initiative même au cœur de la tempête. Alléluia. Alors, on va prier ensemble afin que nous quittions des positions qui nous empêchent d'avancer. Jésus a tout vaincu à la croix du calvaire. Les chaînes sont brisées en son nom. Satan est vaincu. La mort elle-même est vaincue. Le péché est vaincu. C'est pas le péché qui doit avoir le dernier mot. C'est Jésus-Christ. Alléluia. À lui soit la gloire. Alors que ce qui t'empêche, tes raisonnements peut-être, qui sont peut-être justes, mais qui sont empreints d'une logique qui est matérialiste, qui est humaine. Il faut que ce soit le spirituel qui prenne le dessus. Alors on va prier ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta bonté, pour ta grâce, pour Seigneur ta parole qui nous apprend que tu es le Dieu qui bénit. Seigneur, tu as béni Abraham, il a eu un fils. Tu as béni, Seigneur, Pierre, ses filets ont été remplis de poissons et même pour lui, une vie nouvelle a commencé. Il est devenu un pêcheur d'hommes. Seigneur, ce n'est pas la tempête qui a eu le dernier mot. Seigneur, il a marché sur l'eau et la tempête, peu de temps après, a été stoppée. Seigneur, et puis, Seigneur, ce n'est pas le nombre, Seigneur, de la foule qui était un obstacle, Seigneur, parce que tu l'as nourri, Seigneur. Et tu peux faire infiniment au-delà de tout ce que nous te demandons. Seigneur, les obstacles, Seigneur, tu es capable de les lever tous. Mais Seigneur, il y a peut-être ce matin, Seigneur, dans le cœur de quelqu'un, un obstacle personnel, une peur, une blessure. Seigneur, une honte. Seigneur, qui empêche, Seigneur, d'aller plus loin. Et Seigneur, toi, tu es celui, Seigneur, qui nous permet de quitter ces positions, de nous séparer de cela. Seigneur, ta parole nous dit que c'est pour nous que tu étais à la croix, que tu es mort, que tu étais identifié à chacune des situations de péché qui peuvent exister, que tu es mort, mais que tu es ressuscité afin de nous libérer. Ta parole nous dit, si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Je te prie pour celui qui a besoin de te rencontrer, qui a besoin de toi. Seigneur, une vie nouvelle en toi. Je te prie pour celui, pour celle qui est comme Abraham, un enfant de Dieu, comme Pierre, un enfant de Dieu, et qui a besoin de quitter une situation qui le maintient dans l'échec, dans l'incrédulité, dans la peur. Alors ce soir, Seigneur, ce matin, Seigneur, nous nous tournons vers toi et nous sommes comme Abraham et nous disons, Seigneur, je place ma foi en toi. Seigneur, ce n'est pas mes sentiments, ce n'est pas les événements qui vont avoir le dessus, mais tu restes le même. Ta parole, elle est la même. Tes promesses ne sont pas changées. Je veux les voir s'accomplir. Et Seigneur, je te prie afin que le Saint-Esprit saisisse le cœur, les pensées de plusieurs, afin que le cœur qui est froid soit réveillé, Seigneur, dans le nom précieux de Jésus. Seigneur, alléluia. Là, à ta place, que tu puisses dire, Seigneur, c'est assez cette situation, c'est assez, je ne vais pas rester comme ça. Je vais sortir de cette position, je vais sortir de ma tente, je vais sortir de ma barque. Et Seigneur, je veux voir ta gloire. Alléluia. Placez votre foi dans le Seigneur ce matin. Et dites-lui, Seigneur, pardon parce que je me suis appuyé sur un autre point d'appui que toi. Mais ce matin, c'est sur toi que je m'appuie. Alléluia. Tu n'as pas changé. Ton Dieu n'a pas changé. Amen. Gloire au Seigneur. Tandis qu'on est sous le regard du Seigneur, peut-être quelqu'un a-t-il besoin que l'on prie pour lui ou pour elle. Alors si on a nos regards fermés, mais si vous voulez que l'on prie pour vous, faites un signe de la main à votre place en disant « j'ai besoin du Seigneur ». Voilà, il y a quelques-uns lèvent leurs mains. Gloire à Dieu. Voilà, quelques-uns. Plusieurs même. Voilà, gloire à Dieu. Si quelqu'un d'autre a encore besoin de lever sa main, vous levez votre main en disant « moi j'ai besoin du Seigneur ». Voilà. Je voudrais qu'on prie pour moi. Voilà, oui, je vous ai vu. On va prier ensemble. Seigneur, je t'apporte ces bien-aimés, Seigneur, en te demandant de les bénir. Seigneur, ils veulent quitter la situation dans laquelle ils sont pour entrer dans ce que, Seigneur, tu as préparé pour eux. Tu vois, Seigneur, humainement parlant, c'est impossible parce que, Seigneur, ils ont, mon Dieu, par leur propre force, essayé de changer. Mais, Seigneur, rien n'a changé. Mais ce matin, Seigneur, ils placent leur confiance en toi. C'est toi qu'ils appellent à leur aide, à leur secours. Et toi, tu fais infiniment au-delà de tout ce que nous te demandons et même pensons. Mais il y a une chose que tu nous demandes, c'est de sortir, Seigneur, de conception erronée pour dire, mais je vais placer ma foi dans mon Seigneur. Et c'est lui qui va intervenir. Alors, Seigneur Jésus, je te prie de répondre à la prière ce matin. Seigneur, au-delà de tout ce qu'on peut dire ou définir, c'est toi qui fais un miracle. Seigneur, c'est ton intervention. Et Seigneur, tu les amènes à une position de foi. Seigneur, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Quelques secondes encore. On maintient ces moments. Alléluia. En disant, Seigneur, je reste dans cette position. Alléluia. Seigneur, à toi la gloire. À toi la gloire. Alléluia. Bénissez le Seigneur dans votre cœur, vous qui avez levé votre main. Et dites, Seigneur, je ne veux plus retomber. Seigneur, et c'est sur toi que je m'appuie. Je place ma foi en toi, Seigneur. Alléluia. Quelques secondes encore. Gloire à Dieu. Gloire à ton nom, Seigneur. C'est toi qui fais l'œuvre, Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. On reste affermis. Vous gardez toutes ces choses.